Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission Point de Mire que j'ai le plaisir d'animer avec Marianne Durand-Lacaze a pour but de vous faire découvrir la société asiatique. Cette société savante entretient en effet avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres des liens très étroits. Marianne, quelle est l'histoire de cette société asiatique ?
Eh bien, Hélène Renard, la société asiatique a été fondée en 1822, parallèlement au développement de l'orientalisme. Cette société a eu une longévité surprenante car elle a traversé le 19e et le 20e siècle en développant et en diffusant des connaissances relatives à l'immense aire géographique qui va du Maghreb à l'Extrême-Orient. Finalement, aujourd'hui, les recherches continuent, constituent un savoir, savoir sur lequel des hommes comme Henri Laurence en France et Édouard Saïd aux États-Unis ont réfléchi sur sa construction et sa déconstruction par les orientalistes au cours des deux derniers siècles. Alors concrètement, les premières décennies du 19e siècle ont été le temps de la découverte en Europe de langues, de littérature, de religion, de philosophie, de monuments de divers pays d'Asie, le temps où on souhaitait une connaissance plus exacte des cultures, et c'est aussi une époque où des lettrés de ces divers pays d'ailleurs s'ouvraient eux aussi aux sciences des Européens et venaient volontiers coopérer à leurs recherches. Un esprit international d'échanges de connaissances s'était créé. Ce contexte historique est important pour expliquer la création de sociétés savantes, et des sociétés de savants en effet s'étaient constituées en Asie. Par exemple à Batavia, à l'initiative de Hollandais, à Calcutta, par des Anglais, mais l'équivalent en Europe n'existait pas encore. Mmh. Et la France a eu l'initiative en créant la Société asiatique. En 1821, le comte Lasteyrie, Rémusat et Saint-Martin élaborèrent un projet de règlement qu'ils firent imprimer et circuler sous le titre de Société asiatique prospectus. Et dans ce texte, ils parlent de l'expansion grandissante des connaissances sur les peuples voisins et il a ajouté, je cite, « L'on n'a pas tardé à sentir ce que l'histoire de l'homme pouvait avoir à gagner par la connaissance des traditions de toute espèce conservées par les anciens peuples asiatiques. » Sont ensuite évoquées, toujours dans ce texte, l'utilité de la connaissance de l'Asie pour l'histoire, sa qualité de réservoir, de sujet de méditation, comme ils disent, pour le métaphysicien, le poète, l'artiste, le naturaliste. La dette de l'Europe à l'égard de la civilisation de l'Asie, c'est la priorité de la société asiatique à cette époque. Donc un programme est proposé, il est vaste et très ambitieux. Et on a là tout de suite d'emblée l'esprit de la mission de la société asiatique et sa vocation scientifique. Alors, la première réunion.
Première réunion de la société asiatique, voilà. Ça s'est passé comment ?
Alors, elle s'est tenue, on sait beaucoup de choses, elle s'est tenue le 1er avril 1822 de 8h à minuit. Sylvestre de Sacy se vit offrir la présidence, Garcin de Sacy lui étant adjoint comme secrétaire provisoire, et il y avait déjà à ce moment-là 37 associés étrangers et 111 membres souscripteurs. Alors un règlement a été proposé, discuté, adopté, et en fait, ce sont d'ailleurs, dans ces grandes lignes, les statuts en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire, ça peut changer. Alors, ils ont procédé à l'élection de 17 membres du Conseil, et l'Assemblée a donné à ce Conseil le pouvoir de nommer d'autres membres. Enfin bon, le Conseil s'est constitué et s'est mis en place immédiatement et au travail, en fait. Donc, dès sa fondation, la société asiatique avait ainsi trouvé une organisation qui a peu changé et qui a surtout servi de modèle. La Royal Asiatic Society de Londres a été fondée en 1824 et a adopté un règlement quasi identique. Et il y a également aux États-Unis, comme en Allemagne, l'équivalent de ces sociétés qui vont apparaître en 1842. Alors il faudrait encore dire un petit mot du contexte historique, parce que cette année 1822, elle est une année formidable, puisque quelques mois plus tard, Champollion a lu sa célèbre lettre à Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 27 septembre. Donc cette année 1822 est marquée par un succès mémorable de la science. Et c'est aussi une époque où la vie parisienne, sous la Restauration, est emportée par une sorte de vague orientalisante et les savants partageaient leurs activités avec les gens du monde, plutôt amateurs, amis de l'Orient. Alors, le règlement de 1822, eh bien, il prévoyait des membres en nombre illimité et puis aussi en nombre restreint pour des associés correspondants. Ils devaient une cotisation annuelle et ils avaient surtout le droit d'acheter au prix coûtant les publications de la société. Alors, ce qui est très important dans cette société, outre ces réunions mensuelles, c'est que d'emblée, elle a eu l'idée de créer un journal, le journal asiatique, et le conseil avait une grande mission qui était justement de décider et des sujets traités dans ce journal, et de participer à la rédaction du journal asiatique. Alors, que dire d'autre globalement sur la fondation de la société? C'est qu'elle a reçu le statut de personnalité civile par l'ordonnance royale du 15 avril 1829, ce qui l'habilita à recevoir des dons et des legs. Voilà. Il y a eu une refonte des statuts en 1909, les statuts actuels ne diffèrent pas beaucoup aujourd'hui de cela.
Eh bien, grâce à vous, Maria, je crois qu'on sait tout maintenant sur la fondation, sur les buts, les objectifs, la première réunion, le premier président de la société asiatique, de sa publication principale, le journal asiatique. Mais maintenant, nous allons évoquer des grandes figures, parce qu'il reste quand même que nous devrions évoquer des grandes figures de cette société, particulièrement les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, puisque l'Académie a toujours compté parmi ses membres un groupe d'orientalistes qui étaient tous membres de la société asiatique. Et puis, bien sûr, vous avez souligné l'aire géographique très large de la conception du mot asiatique, mais on peut dire aussi que ça couvre des sphères très diverses, de la Perse à l'Inde, du sanskrit à l'arabe, des Upanishads aux Zen-Avestas, du bouddhisme au taoïsme, même si dans cette émission, nous allons insister plus spécifiquement sur les grands personnages qui se sont consacrés à l'Orient, à l'Extrême-Orient et à la Chine, puisque c'est dans ce cadre que nous présentons cette société asiatique. Alors Marianne, vous avez déjà évoqué Sylvestre de Sacy, le premier président en 1822. Avez-vous d'autres choses à préciser sur ce personnage ?
Oui, effectivement, c'est un personnage unique, un des orientalistes les plus admirés, dont l'autorité était unanimement reconnue et incontestée. C'est un homme qui a appris l'hébreu à l'âge de 12 ans, qui a appris ensuite presque 100 mètres le syriaque, le chaldéen, le samaritain, le turc et surtout l'arabe et le persan. À 22 ans, il publiait des notes sur une version syriaque du 4e livre des rois.
Un génie, un génie.
Il fait partie de ces personnages absolument déprimants pour nous, parce qu'il avait effectivement des facultés d'apprentissage peu communes. Mais vraiment, c'est effectivement un orientaliste hors norme qui a beaucoup travaillé, œuvré pour... Que choisir parmi toutes ces œuvres? Mais par exemple, une anthologie grammaticale arabe qui a complété les précieux outils d'enseignement que Sacy avait déjà créés de toutes pièces et qui font de lui le véritable fondateur des études arabes en France. Alors, pour aller vite, et pourtant il mériterait à lui seul une émission, il a été nommé professeur de persan au Collège de France en 1806. Il est devenu administrateur de cet établissement. Il a œuvré à la création de chaires de sanskrit, de tartare manchou, de chinois et d'hindoustani. Ensuite, il a été aussi administrateur de l'école spéciale des langues orientales et puis conservateur des manuscrits orientaux à la Bibliothèque royale. Et enfin, il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voilà. Alors, et fondateur de la société asiatique.
Voilà, donc là, c'était Sylvestre de Sacy. Et moi, je voudrais à mon tour évoquer Pierre Rémusat, que l'on considère comme l'un des fondateurs en France des études chinoises. Pierre Rémusat, qui s'était d'abord orienté vers la médecine, et qui a d'ailleurs été reçu médecin en 1810, et qui s'est découvert une véritable vocation pour le chinois. En 1811, il a publié un essai sur la langue et la littérature chinoise, et en 1814, il occupe la chaire nouvellement créée au Collège de France de langue et littérature chinoise. Et il compte, comme Sylvestre de Sacy, parmi les fondateurs de la société asiatique, et il en devient le président lorsque de Sacy s'en retire en 1829. Mais Rémusat meurt prématurément assurément en 1832, non sans laisser une œuvre importante, une grammaire chinoise, des traductions de livres chinois et de nombreux mémoires à l'Académie. Alors Marianne, nous avons seulement fait évoquer Champollion parce que bien sûr nous reviendrons à Canal Académie sur cette grande figure, ce grand savant Champollion, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui fut d'ailleurs également président de la Société asiatique. Après Champollion, il y a eu un spécialiste du persan, Jules Moll. Alors lui, bien qu'il ne soit pas dans les antiquités chinoises, est-ce qu'on peut en dire un petit mot de Jules Moll ?
Tout à fait. Il est arrivé à Paris en 1824 pour apprendre le persan auprès de Sylvestre de Sacy. Et il s'est fixé en France, il est devenu donc membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et puis professeur de persan au Collège de France. Il a rendu les plus grands services à la société asiatique dont il a été membre de 1824 jusqu'à sa mort en 1876. On lui doit en fait tous les rapports annuels de la société asiatique de 1840 à 1867 sur les activités de la société qui sont de remarquables rapports critiques sur toute la production orientaliste. Et ces rapports sont estimés à tel point que tout chercheur considérait comme une reconnaissance et un honneur d'être cité par lui. Et ces rapports sont toujours lus et font vraiment partie du corpus de tout orientaliste.
Alors, après Jules Moll, dont vous venez de parler, il nous faudrait aussi évoquer Ernest Renan. Oui. Et qui a joué un très grand rôle dans la société asiatique et qui était lui aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais là aussi, Marianne, nous reviendrons tout spécialement un jour sur Renan, donc on va passer rapidement. Il y a encore une autre grande figure, il n'était pas sinologue, mais tout de même, il est tellement célèbre et c'est un tellement grand personnage, c'est Gaston Maspero. Alors, quelques mots sur lui ?
Alors, Gaston Maspero, finalement, un grand égyptologue qui n'a pas négligé la société asiatique. Il en a été vice-président de 1892 à sa mort. Et je crois que là aussi, nous consacrerons vraiment une émission.
Bon, ça nous en fait trois. Oui, ça nous fait déjà trois grands sujets. En 1903, c'est Édouard Chavannes qui entre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Édouard Chavannes, auquel on doit des travaux, des relevés, des notes archéologiques de grand prix sur la sculpture et les monuments chinois. Chavannes, qui était en lien avec l'écrivain voyageur en Chine Victor Segalen, a formé d'illustres successeurs, parmi lesquels Marcel Granet et Henri Maspero. Et si vous le permettez, j'ajouterai un mot de Louis Finot, un chartiste de formation qui abandonna les études classiques au profit des études orientales et qui fut le premier directeur de l'école française d'Extrême-Orient et qui en 1922, donc 100 ans après la création de la société asiatique, se fit l'éditeur du livre du centenaire de cette société à laquelle on devait 100 ans d'orientalisme en France, ça n'était pas rien. Alors j'évoquais Henri Maspero, donc il est le fils de Gaston Maspero, mais son père était égyptologue, lui est sinologue.
Tout à fait, Henri Maspero était licencié en droit, diplômé de l'école des langues orientales en chinois, et en fait il s'est détourné de la voie tracée par son père, le grand égyptologue, pour lui préférer la sinologie et la vietnamologie. Et il a accepté en 1808 un poste de pensionnaire à l'EFEO et il a suivi donc en Indochine son demi-frère qui était administrateur de service civil. Il est donc parti sur le terrain et à son retour, il a été nommé professeur de chinois. Il est rentré au Collège de France à la suite de Paul Pelliot.
Ah mais Paul Pelliot, vous ne nous en avez pas parlé, Marianne, un petit mot alors sur Paul Pelliot, ne va pas laisser passer ce personnage.
Alors, Paul Pelliot...
Je vous fais passer d'un auteur à l'autre, mais ils sont tellement célèbres qu'on ne peut pas ne pas les évoquer.
Alors, Paul Pelliot est également un très très grand sinologue, c'est en fait le premier pensionnaire de l'école française d'Extrême-Orient, il a été envoyé à Pékin en 1900. Afin d'acquérir des ouvrages pour la bibliothèque et puis des objets pour le futur musée de cette institution. Alors, il a participé aux événements de la guerre des Boxers en 1900.
Comme Pierre Loti, voilà. D'ailleurs. Oui. Comme Pierre Loti.
Oui. Et en 1901, il est devenu professeur de chinois et il est surtout connu pour une expédition qu'il a menée entre 1906 et 1908 en Asie centrale. De Duanghang, un site bouddhique rupestre à la limite orientale de la route de la soie. Il rapporta une collection inestimable de manuscrits et des bannières peintes toutes antérieures au Xe siècle qui sont conservées à la Bibliothèque nationale et au Musée Guimet. En 1911, il est nommé professeur au Collège de France à la tête d'une chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale créée pour lui. Alors, il était à la fois linguiste, philologue, historien et archéologue. Ses intérêts étaient multiples, et aussi bien l'histoire des échanges diplomatiques, religieux, culturels. Beaucoup de sujets l'ont intéressé, mais il n'a publié aucune synthèse, les jugeant donc trop prématuré. Mais nous avons de lui de très nombreux articles et de notes très érudites. Et justement, le journal asiatique en contient un très grand nombre.
Voilà, c'était donc Paul Pelliot que Marianne évoquait. Et maintenant, passons aux années 20. Le grand maître des études chinoises dans ces années-là, ce fut Paul de Miéville, qui succédait d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, à Henri Maspero.
Henri Maspero, sur lequel je voudrais juste ajouter petit peu sa spécificité, c'est que il s'est intéressé à l'histoire du Vietnam. Il a complété vraiment ses connaissances et surtout il a permis d'enrichir le fonds vietnamien de la bibliothèque de l'école et plus tard de la société asiatique parce qu'il a légué sa bibliothèque qui se compose de nombreuses enquêtes sur le terrain, d'ouvrages anciens, d'estampages recueillis lors de ses diverses missions. Et puis dans le domaine linguistique, il a instauré une méthode d'analyse comparative des langues thaï, chinoise et vietnamienne. Une méthode qui était déjà au point, mais qui n'avait pas encore été adaptée pour l'étude des langues d'Asie orientale. Et d'un point de vue historique, il a aussi beaucoup œuvré. Il a dégagé de l'histoire du Vietnam et de la Chine, l'histoire des mythes et des légendes de ces pays. On lui doit beaucoup sur ces sujets. Il a également étudié le taoïsme et le bouddhisme, intimement liés en Chine, justement. Et il s'est lancé dans la lecture de textes taoïques, donc qu'il a déchiffrés. Il en a déchiffré aussi les termes techniques et tout ça a été évidemment très important. Et enfin, eh bien, c'est la Chine antique qui est sans doute l'objet essentiel de son œuvre la plus importante parce qu'il a défini les conditions géographiques et humaines de la haute antiquité et reconstitué les traditions légendaires et chronologiques de la Chine antique. Voilà pour l'immense travail de Henri Maspero.
Voilà, donc on est très ébloui par l'érudition extraordinaire de ces grands maîtres. Donc moi, j'abordais maintenant les années 20 le grand maître Paul de Miéville, donc spécialiste lui aussi du bouddhisme, tant chinois que japonais, et qui fut lui aussi professeur au Collège de France, à la chaire de langue et littérature chinoise, et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc c'est ces trois sociétés, Académie, Collège de France et Société asiatique, sont véritablement liées par les hommes, on le voit bien, et par leur érudition. La production scientifique de Paul de Miéville est immense et lui aussi, il a fait don de sa bibliothèque à la Société asiatique qui la conserve encore aujourd'hui. Alors, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le successeur de Paul de Miéville à son fauteuil, c'est Jacques Gernet, qui est aujourd'hui l'un des sinologues les plus réputés au monde. Jacques Gernet qui a fait ses études de lettres classiques à Alger, sa ville natale. Puis après la Seconde Guerre mondiale, guerre à laquelle il a largement participé d'ailleurs, il s'est orienté vers le chinois, a passé de multiples diplômes. Il est parti pour l'école française d'Extrême-Orient à Hanoï. Et il a mené durant de longues années une prestigieuse carrière de professeur d'université. De 1975 à 1992, Jacques Gernet a tenu la chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine au Collège de France. Vous voyez, Marianne, on voit que le nom des chaires change légèrement Exactement. En fonction des spécialités de chaque professeur. Et durant ces années-là, il a été élu, je le disais, au fauteuil de Paul de Miéville à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'était en 1989. Je voudrais seulement préciser que Canal Académie consacre une autre émission, une émission au fil des pages, à Jacques Gernet et à son œuvre, particulièrement à son ouvrage « Le monde chinois » et j'invite nos auditeurs à s'y reporter. Encore un élément, je voudrais ajouter à propos de Jacques Gernet. Il y a quelques années, en 1992, et j'y étais, donc je m'en souviens, il est intervenu lors d'un colloque au Collège de France qui célébrait la mémoire d'un autre membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, du Collège de France et de la Société asiatique, une personnalité forte original mais quelque peu oublié aujourd'hui, le marquis d'Hervé de Saint-Denis. Et cette commémoration était organisée au Collège de France donc par l'association Oniros, qui est une association se penchant, comme son nom l'indique, sur l'étude des rêves. Et pour cause, d'Hervé de Saint-Denis a laissé un ouvrage que tous les onirologues connaissent, Les rêves et les moyens de le diriger. Ça, c'est le titre de son ouvrage. Mais c'est évidemment pour évoquer le sinologue que fut d'Hervé de Saint-Denis que Jacques Gernet a pris la parole, et je me propose de vous lire un court extrait de sa communication. Cet homme extrêmement curieux et qui est loin de n'avoir publié que des travaux relatifs à la Chine était d'abord et avant tout sinologue. Son œuvre dans ce domaine est tout à fait honorable, surtout si on songe aux moyens de travail assez médiocres et très insuffisants dont on disposait à l'époque, en l'absence de bons dictionnaires, de répertoires, d'encyclopédies et au très petit nombre de travaux en langues occidentales. Il y a eu cependant au Collège de France des sinologues de bien plus grand renom, dont les anniversaires de mort et de naissance n'ont donné lieu à aucune manifestation, mais qui l'auraient mérité. D'Hervé de Saint-Denis n'a guère laissé de souvenir, et cela d'autant moins que son passage au Collège de France se situe entre ceux de deux éminents savants français dans le domaine des études chinoises. Tout d'abord celui dont il avait été le disciple, Stanislas Julien, maître incontesté de ses études dans tous les pays occidentaux et dont les travaux n'ont pas sensiblement vieilli malgré les immenses progrès qui ont été accomplis depuis son époque. Et en second lieu, d'Hervé de Saint-Denis a souffert de la proximité de son successeur immédiat, Édouard Chavannes, qui a laissé une œuvre incomparablement plus étendue et formé quatre éminents disciples, Paul Pelliot, Henri Maspero, Marcel Granet et Paul de Miéville, qui ont fait, entre les deux guerres et après la dernière guerre en ce qui concerne Paul de Miéville, la gloire de la sinologie française, aujourd'hui très concurrencée par les États-Unis, le Japon et les d'autres pays d'Europe. Pour situer le marquis dans l'histoire du Collège de France, je rappellerai que c'est en France, alors quand c'est « je », c'est Jacques Gernet qui parle, je suis toujours dans la lecture de son introduction, je rappellerai que c'est en France qu'a été créé en Occident le premier enseignement académique consacré à la Chine. C'était en 1814, sous la Restauration, entre l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe et les Cent-Jours, la chaire de langue chinoise et Tartare Mandchou a eu pour titulaires successifs Abel Rémusat de 1814 à 1832, Stanislas Julien de 32 à 73, un très long règne, d'Hervé de Saint-Denis de 74 à 92, Édouard Chavannes de 1893 à 1918, et il ne semble pas d'ailleurs que d'Hervé de Saint-Denis ait eu quelques connaissances du mandchou, ou du moins qu'il ait eu recours dans ses travaux, le mandchou étant avec le chinois la langue officielle de l'Empire des Qing de 1645 à 1911. Cette chaire a ensuite changé d'intitulé et est devenue, avec Henri Maspero puis Paul de Miéville, une chaire de langue et littérature chinoise. J'ai l'honneur, quelque peu écrasant, c'est toujours Jacques Gernet qui parle, de me situer au bout de cette illustre lignée, avec encore, du fait du développement et de la spécialisation de plus en plus grande des études chinoises, un nouvel intitulé, moins général, qu'avaient adopté Maspero et de Miéville. Donc l'intitulé de la chaire que tient aujourd'hui Jacques Gernet au Collège de France, enfin qu'il a tenu jusqu'en 1992, puisqu'aujourd'hui il est professeur honoraire, c'est une chaire qui porte le titre de « Histoire sociale et intellectuelle de la Chine ». Alors Marianne Durand-Lacaze, avez-vous quelques précisions pour nos auditeurs qui souhaiteraient s'intéresser de plus près à la société asiatique, quelques conseils pratiques à leur donner ?
Alors la société asiatique est située au palais de l'Institut de France, dans les locaux mis à sa disposition par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Elle tient des réunions mensuelles tous les deuxièmes vendredis du mois à 17h dans la salle Hugo du palais de l'Institut, 23 quai Conti.
Et aujourd'hui, Marianne, alors cette société, vous avez dit qu'elle avait une très longue vie, qu'elle dure encore. Il y a combien de membres dans cette société ?
La société asiatique fédère plus de 700 membres en France et dans le monde. Son organe, le journal asiatique, est publié sans interruption depuis 1822 et elle joue toujours ce rôle d'organisme fédérateur des spécialistes d'études orientales. Les séances ont toujours eu lieu avec une régularité quasi infaillible depuis sa création, parce qu'elle a traversé la Première Guerre mondiale, la seconde. Le président Paul Peillot a réussi à en assurer le déroulement pendant la Seconde Guerre mondiale, sans compromission avec les occupants. Le gouvernement de Vichy imposait l'obtention d'une permission pour toute réunion. Peillot a refusé de la fournir, de la demander. Les réunions furent clandestines et ne furent jamais dénoncées.
Merci de cette précision qui était tout à fait intéressante. Marianne Durand-Lacaze, à bientôt.